Bonjour tout le monde. On laisse le piano parce que un petit peu plus tard, je vais inviter un pianiste à venir m'aider un petit peu dans le cadre du message, vous allez voir. Et alors, au niveau des prières, on n'oublie pas, comme quelqu'un a prié dans la réunion de prière un peu plus tôt, le Moyen-Orient, l'Iran, Israël, tous les pays entre les deux. Prions pour la paix. Prions que Dieu fasse ses bons plans à travers cette situation qui nous inquiète. Oui, il y a un besoin d'amour dans notre monde d'aujourd'hui. En fait, ce besoin est enraciné dans le cœur de chacun de nous. Est-ce que tu ressens ce besoin ce matin, le besoin d'amour? Est-ce que tu ressens le besoin de l'amour de Dieu pour toi? Peut-être que les pressions de la vie sont énormes sur toi en ce moment. Finances, le temps dont tu as besoin pour faire ce que tu dois faire pour ta famille. Peut-être même ta santé émotionnelle est mise sous pression. Tu te demandes, est-ce que Dieu peut m'aider? Est-ce qu'il veut m'aider? Peut-être aussi que tu te sens coupable par rapport à quelque chose dans ton passé. Peut-être aussi, c'est rien de précis, mais un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être accepté. Est-ce que Dieu m'accepte? Est-ce que Dieu me pardonne? Et peut-être que tu as un problème de santé majeur, maladie, handicap. Est-ce que Dieu est là pour moi? Est-ce que Dieu souffre avec moi? Est-ce qu'il veut me guérir? En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Il t'aime vraiment. La parole de Dieu donne une réponse claire et pleine d'autorité à ces questions et à la grosse question. Et elle va nous faire du bien, cette réponse, dans la mesure où on l'accueille avec foi. Je t'invite à écouter la parole ce matin et à l'écouter avec foi et à la recevoir pour toi. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et il y a un psaume qui parle de l'amour du Père. Le psaume 103, on va en lire une portion aujourd'hui. Le message s'intitule « En sécurité dans l'amour du Père ». Et le résumé de ce que je vais retirer, ce que nous allons retirer du psaume, c'est ceci. En nous nourrissant de sa parole, la parole de Dieu, nous allons grandir dans cette sécurité, dans l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Et cette sécurité va nous rendre capables de mieux aimer. On va se nourrir de ce que Dieu nous dit. Et avec notre foi, on va grandir dans cette sécurité que Dieu nous aime inconditionnellement, puis ça va avoir un impact. Et ce message, c'est pour les papas. Ceux qui sont papas aujourd'hui, nous devons, parce que j'en suis un, nous devons apprendre à mieux recevoir l'amour de Dieu pour mieux le transmettre déjà à nos enfants. Mais c'est pour tout le monde en réalité, pas juste les papas. Tu dois recevoir cet amour pour le refléter dans ton monde. Lisons le texte, mais d'abord, prions. Ô Dieu, tu viens à nous en tant que papa. Et ton fils nous a appris à prier en t'appelant notre Père qui est aux cieux. Oh, que cette vision de toi comme Père soit purifiée dans nos cœurs pour que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs, ton nom de Père. Merci pour ton amour, merci pour le pain de chaque jour, merci pour ton pardon, pour nos offenses, merci pour ta protection contre la tentation, où tu nous apprends à dire oui à ton amour et non aux fausses promesses des tentations. Merci d'être notre papa. Au nom de Christ, amen. Vous avez peut-être reconnu le Notre Père dans cette prière ou en arrière de cette prière. Lisons maintenant le texte qui est au milieu du psaume 103, un psaume préféré de certaines personnes. C'est le psaume qui commence par « Mon âme bénit l'Éternel ». Mais on va lire plutôt le milieu. Allô? Ah, voilà. À partir du verset 8, si tu as ta Bible avec toi. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient, c'est-à-dire l'Est, est éloigné de l'Occident, c'est-à-dire l'Ouest. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Alors, j'ai un petit spécial pour vous ce matin. On va, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette portion du psaume 103 par cœur, j'ai une petite aide pour vous. On va le chanter. C'est le même texte, sauf qu'il manque juste le dernier verset. Et je vais inviter Benoît à venir nous accompagner au piano. Donc, c'est une très belle mélodie qui, j'espère, parce qu'on va le chanter 2-3 fois durant le message, et que ça va rester dans votre tête avec les paroles. Et alors, je vais le chanter une fois. Peut-être qu'il y en a qui connaissent cette mélodie. Vous pouvez le chanter, puis on va le chanter une deuxième fois, tout le monde ensemble. Écoutez bien, la mélodie, c'est de toute beauté. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternelle la compassion de ceux qui le craignent. OK. Vous voyez que j'ai besoin de votre aide. Vous voyez. Et alors, on va le reprendre. Et c'est quand même une mélodie qui est quand même... que vous allez retenir. On essaie ça une deuxième fois. Petite intro, et puis cette fois-ci, tout le monde ensemble. Allons-y.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent.
Amen. Merci à notre pianiste. Tu peux aller t'asseoir. Tu reviens tantôt à la fin. Oui. On va le réviser pour qu'il aille avec vous, ce chant, dans votre semaine, avec cette expression de l'amour de Dieu, celui qui a un cœur de père. On a lu la section centrale de ce psaume. Il parle de l'amour de Dieu et de son pardon. Et en fait, il met les deux ensemble. Pourquoi? Pourquoi l'amour et le pardon vont ensemble? Parce qu'avant tout, Dieu est amour. La Bible ne dit pas Dieu est pardon. Et la Bible dit Dieu est amour. Mais il veut tellement rétablir la relation d'amour brisée avec nous qu'il a garanti, il a mis en place avec un plan qui date de l'éternité, le pardon qui était nécessaire pour qu'on puisse être rétabli dans cette relation d'amour avec lui. Peu importe ce qu'on a fait pour briser cette relation, Dieu a pourvu le pardon. C'est un peu comme mon but ultime, c'est de me rendre à, mettons, parlons de Rimouski, parce que je pense que Mélodie est allée là dernièrement. Je veux vraiment aller à Rimouski. Bien, il y a quelque chose que je dois garantir à l'avance, que mon réservoir d'essence soit plein d'essence. Et c'est, on pourrait dire que c'est comme un moyen vers un but. Et Dieu a payé cher notre pardon, mais c'est un plan qu'il avait d'avance, de toute éternité. Il allait envoyer Jésus, son Fils, à la croix pour mourir pour nous, en sacrifice expiatoire pour toi, pour moi. Il en résulte que des pécheurs comme toi et moi, on peut maintenant être rencontrés par ce Dieu d'amour, avec un pardon déjà prêt pour moi et pour toi, et que dès cette rencontre, on puisse vivre cette relation restaurée, cette relation d'amour avec ce papa d'amour. Alors, Jésus voulait nous faire comprendre ça, et quand il a marché parmi les hommes, il a raconté une parabole, la parabole du fils prodigue. Elle est dans Luc 15, on ne va pas la relire, plusieurs la connaissent. Si tu ne la connais pas, va dans ta Bible, Luc chapitre 15, c'est la deuxième moitié du chapitre, la parabole de l'enfant prodigue. Prodigue veut dire l'enfant rebelle qui part dans sa révolte contre ses parents. Mais Dieu vient à la rescousse. Dans cette histoire, Jésus présente Dieu comme un papa d'amour, mais un papa qui est maltraité par ses deux fils. Ce qui me frappe dans cette histoire, ce n'est pas juste que Dieu pardonne, parce qu'il finit par pardonner le fils rebelle et montrer aussi beaucoup d'amour envers l'autre fils. Mais moi, ce qui me frappe, c'est on voit que c'est un homme généreux. Il est vraiment, il veut être bon, il veut être bienveillant, il veut donner. C'est au point où le fils qui est malveillant, il en abuse. Il dit, « Papa, donne-moi la moitié de mon héritage. » Le papa, il est loin d'être mort. Et le papa veut le bénir, il lui donne. Le papa, il est généreux aussi avec son staff domestique, parce que le fils prodigue, à un moment donné, il va dire, « Mais je vais retourner, je vais demander si je ne pourrais pas faire partie du staff. Je sais que mon père est bon envers ses employés. » Et ce fils espérait justement cette générosité. Et il l'a eu. Mais il a eu beaucoup plus. Il a eu la réconciliation totale. Il a eu le pardon total. Ça a dû lui faire tellement de bien dans son cœur à ce fils. Cette surprise. « Wow, mon père, il ne va pas juste m'entretenir. Il me réinvite dans la relation filiale. » Wow! Ça me fait penser à une histoire que j'ai lue. Ben, en fait, c'est dans un film aussi, mais il y a un livre. Le film a été fait à partir du livre. Et c'est le Festin de Babette. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu ou vu. Quelques personnes. Le Festin de Babette de Karen Blixen, une Danoise. Dans cette histoire, en tout cas, il y a une vieille petite église, comme une genre de communauté de vieux de la vieille, d'une église qui était très fervente, mais qui s'est beaucoup refroidie avec le temps. Et là, ils sont vieux, ils sont peut-être une douzaine, et leur premier amour est vraiment... quelle est l'expression? Ils ont perdu leur premier amour, vraiment. Et même, ils sont en chicane les uns avec les autres dans cette histoire. Et dans l'histoire, je n'irai pas dans les détails, ils vivent une visite puissante de la grâce de Dieu quand ils sont réunis. Et leur cœur est touché et spontanément, ils se prennent les mains les uns des autres, ils se mettent en cercle et puis ils commencent à tourner en cercle en chantant un de leurs cantiques de louange préférés. Et la narratrice, elle dit ceci, elle dit que leur cœur, vraiment cette fois-ci, dans leur cœur, leur péché avait été lavé plus blanc que la laine. En tout cas, c'est ce qu'ils ressentaient dans leur cœur. Leur péché avait été lavé plus blanc que la laine. Et dans ces nouveaux vêtements de leur innocence retrouvée, ils gambadaient comme des petits agneaux. C'est beau, hein? Ça, c'est le sentiment « Dieu me pardonne. » « Ah, tu veux que je sois proche de toi? » C'est ce que le fils prodigue a vécu et c'est ce que Dieu aime avec toi et moi. Alors, vous qui êtes des papas, vous avez le privilège et la responsabilité de refléter l'amour de Dieu envers vos enfants pour que lorsqu'ils entendent que Dieu est un papa, il veut être leur papa, qu'ils puissent comprendre que c'est de l'amour dont il s'agit. Pas de colère, pas d'irritation, pas de ce sentiment d'être tout le temps évalué, pas de ce sentiment d'être jamais à la hauteur, mais de l'amour. Et je sais qu'il y a des personnes ici qui souffrent parce qu'ils n'ont pas eu ce genre de père-là. Ou peut-être ils n'ont pas eu de père du tout. Peut-être qu'il y a des papas qui souffrent ce matin parce qu'ils se disent « Et souvent, je n'ai pas du tout été à la hauteur. » Mais moi, je suis papa aussi et mon épouse a fait une éloge de moi tantôt, mais je le sais que j'étais loin d'être parfait comme papa. Même maintenant, je le sais que j'ai posé des gestes inappropriés. Parfois, on va dire des punitions qui étaient peut-être, c'est pas ce que Jésus aurait fait. Je n'irai pas dans les détails, je suis un père imparfait. Comme toi. Mettons-nous d'accord ensemble, les papas. Recherchons à recevoir cet amour du Papa Céleste qui va nous attendrir, qui va faire de nous des meilleurs reflets de son amour de Père. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et les dames, les célibataires, joignez-vous à nous. J'aimerais mentionner trois choses qu'on voit à propos du cœur de Dieu dans le psaume, mais aussi un petit peu à la lumière de l'Évangile. On voit que Jésus, quand il est venu nous éclairer les Écritures. Et le fils prodigue, qui prend en compte aussi qu'est-ce que l'Évangile va nous révéler, bien, elle vient éclairer aussi le psaume. Alors, je vais me limiter à trois choses qui m'ont vraiment frappé à propos de l'amour du Père, à propos de l'amour du Père dans ce psaume. Alors, premièrement, on a un Dieu qui prend plaisir à nous voir heureux d'être pardonnés, heureux d'être acceptés. Parce que peut-être tu te dis, mais moi, j'ai pas été un grand criminel, mais j'ai un sentiment de ne pas être à la hauteur, que Dieu ne m'accepte pas. Et là aussi, l'amour ou le pardon de Jésus vient nous dire puissamment, tu es lavé de toute inaptitude, tu es pleinement accepté si tu reçois Christ. Nous, les humains, nous pardonnons trop souvent avec prudence et calcul. Et souvent, on ne pardonne pas vraiment. Ben oui, je l'ai pardonné, mais c'est juste que je ne veux plus jamais le revoir. Ça, ce n'est pas vraiment du pardon. alors, voyez un peu comment on a de la misère à pardonner. Dieu est différent. Dieu est différent. Il n'a aucun plaisir à garder la rancune. Le verset 9 qu'on a lu dit... Il se tanne de contester avec nous. Oui, mais toi, Marc, toi, oublie pas, qu'est-ce que... Il se tanne de ça très rapidement. Il veut m'amener dans la relation restaurée. Si on s'en remet à l'histoire du fils prodigue, il veut m'amener dans un party en mon honneur. Parce qu'il... Il nous aime, il aime déverser son pardon sur nous. Et quand il vient à nous, c'est le rayonnement de son amour qui nous frappe dans le visage et nous relève la tête. L'image par rapport à son pardon, elle est géographique. Comme l'Orient ou l'Est est éloigné de l'Occident, il éloigne de moi la laideur de ma révolte, la lourdeur de ma culpabilité, le malaise de ma honte. Alors, vous voyez, la personne qui est là, ça, c'est, on va dire, c'est toi. Et tu essaies de voir où est ta culpabilité, tu ne la vois plus. Elle est loin dans l'Est, puis toi, tu es loin dans l'Ouest, ou vice-versa. Dieu veut fêter avec toi. Plus que ça, quand tu viens à Christ, et ceux qui vont être baptisés vont célébrer ça, vont célébrer leur pardon, et puis tu sais une chose, tu es pleinement pardonné et accepté dans sa présence, même avant que tu confesses tous tes péchés passés, même avant que tu en aies pris conscience de choses que tu as peut-être faites puis que tu as oubliées, Dieu va te déclarer pardonné. J'ai lu une biographie qui m'a frappé en plein visage dernièrement, la vie de John Newton, un prédicateur et un écrivain, celui qui a écrit l'hymne gospel, Grâce infinie de notre Dieu, Amazing Grace. C'est un grand classique et je l'aime beaucoup, ce chant. Mais ce John Newton, c'était un homme affreux avant de connaître Christ. Affreux. Je veux dire, vous avez l'impression que je le juge, mais comprenez que c'était le capitaine d'un bateau qui allait en Afrique. C'était leur business d'aller capturer des êtres humains, les kidnapper de leur famille, de leur vie, et les amener de force dans les Antilles pour les vendre comme esclaves. Donc, ceux qui sont d'origine haïtienne, et ça, c'est vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est l'origine horrible des survivants de ça qui sont vos ancêtres et c'est tout à leur honneur. Mais cet auteur de cantique qu'on chante, c'était lui le capitaine du bateau. Et quand il est venu à Christ, il était sur le bateau. Et ce qu'il a confessé, c'était la révolte qui était dans son cœur. Il a dit, je vois que je suis révolté contre Dieu. C'est ça qu'il a confessé. Et Dieu, dans sa miséricorde, est venu le rencontrer à ce moment-là. Mais la chose qui est difficile à nous, pour nous d'accepter, c'est qu'il a continué sa business pendant plusieurs années. Il a continué son trafic d'esclaves africains. Jusqu'à temps où il a commencé à se sentir dégoûté de ce business. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a étudié la théologie, il est devenu pasteur et prédicateur. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Je vous dis qu'est-ce qui est écrit dans le livre que j'ai lu. Il est devenu un prédicateur puissant. Il a écrit ce cantique et d'autres cantiques. Mais c'est seulement bien plus tard qu'il a été forcé par le mouvement de l'abolition de l'esclavage de son pays, l'Angleterre. Il a été obligé d'aller témoigner devant une commission parlementaire concernant les horreurs de ce crime qu'est le trafic des esclaves africains. Et c'est là qu'il a été obligé de regarder en face tous ces crimes, parce que lui, il en parlait devant le Parlement. Et à l'époque, ce n'était pas encore un crime, alors ce n'était pas comme un procès contre lui, mais lui, en tant que chrétien, était là pour dire avec ces gens dans le mouvement d'abolition, ce sont des choses horribles auxquelles il faut mettre fin. Il faut mettre des lois pour interdire ce commerce. Et finalement, c'est ça qui est arrivé. Donc, vous voyez un peu là où je veux en venir. Il y a eu un moment longtemps après sa conversion et la réception de Christ dans sa vie, où il a confessé, selon peut-être beaucoup d'entre nous, le pire de ses péchés. Et selon la Bible, il était déjà pardonné par le sang de Christ. Avant de le juger, avant de le condamner, ma sœur, mon frère, sache une chose. Le travail progressif que Dieu fait en toi pour te faire entrer dans sa lumière, c'est le même travail. Alors, sans minimiser les crimes dont on vient de parler, pense aussi que c'est bien possible pour toi que Dieu te fera prendre conscience à l'avenir d'un angle mort. Un angle mort pour lequel tu es déjà pardonné. Dieu veut te faire entrer dans cette vérité-là, mais dans sa miséricorde, il y va par étapes des fois, peut-être toujours. L'homme est mauvais. Dieu est tellement bon. D'ailleurs, ce prédicateur, John Newton, avait dit, donc plus tard dans sa vie, a dit, « Je ne suis pas l'homme que je devrais être. » C'est sûr que je ne suis pas l'homme que je devrais être, mais je ne suis plus l'homme que j'étais. J'aime cette attitude. On doit toujours progresser. Deuxième vérité sur l'amour de Dieu, Dieu est un Dieu qui prend plaisir à nous voir sécurs dans son amour. Le verset 11, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Alors, on voit que Dieu se compare à un papa. Dieu se compare à la distance entre l'Est et l'Ouest. Et ici, par rapport à sa bonté, il dit, elle est grande, bien plus grande que le ciel par rapport à la terre. Je pense que j'ai une autre image du ciel, quelque part. Ah oui, ça c'est John Newton. Voilà. Et c'est une technique que Dieu utilise dans la Bible. Il dit, voilà quelque chose que vous connaissez, dans votre monde qui est bon, ben moi, je suis comme ça, mais mieux. Moi, je suis comme ça, mais infiniment plus. Donc, vous avez une petite idée de l'amour d'un père, ben moi, c'est la même chose, mais dans l'infini. Et ici, c'est son amour qui dépasse. Son amour qui dépasse ce qu'on peut imaginer ou penser. Imaginons un instant une conversation entre un papa et un de ses enfants, dans une conversation tendre et intime. Et le papa demande à l'enfant, « Combien est-ce que tu m'aimes, mon enfant? » Et l'enfant va répondre, « Papa, je t'aime grand comme notre maison. » Et le papa va peut-être répondre comme, « Ben moi, je t'aime grand comme l'univers. » Bien, Dieu nous dit, je t'aime, mon enfant, plus grand que l'univers. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ma bonté est grande pour toi. Réjouissons-nous dans la sécurité de cet amour que Dieu a pour nous et de la bonté qu'il veut nous donner. Puis, un autre point que je voulais soulever, c'est que c'est vrai que le passage dit « pour ceux qui le craignent ». Sa bonté est grande pour ceux qui se souviennent de son alliance, c'est-à-dire le contrat entre nous et lui. Ceux qui gardent ses commandements. Ce que l'Évangile vient nous dire, c'est que notre foi, notre obéissance, notre crainte de Dieu sont aussi un cadeau de Dieu. Te rends-tu compte que cette foi que tu as en lui, qui t'a permis de devenir son enfant, c'est lui qui l'a travaillé en toi. C'est lui qui l'a produit en toi. C'est lui qui l'a fait grandir en toi. Ce sont des cadeaux qu'il nous donne pour nous rendre capables de recevoir ces autres cadeaux. Alors, ta foi n'est pas une bonne action que tu as faite pour mériter la vie éternelle. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut le voir. La foi que tu as, c'est juste notre main ouverte pour recevoir les cadeaux que Dieu a prévu de te donner et qu'il est heureux de te donner. Cette main ouverte pour recevoir le cadeau. Tiens, je pense que j'ai une autre image ici. Oui. Le cadeau, ça, tout ça, c'est le travail de Dieu. Ouvre la main. Et le travail que Dieu a fait pour te préparer, c'est qu'il a ouvert ton cœur pour que tu aies cette ouverture, cette confiance pour ouvrir ta main et recevoir le cadeau de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas béni d'avoir un Dieu comme ça? Remercions Dieu pour son amour. Remercions Dieu aussi pour la foi qu'il nous donne. Peut-être que tu sens que ta foi est petite. Sens-toi pas coupable. Dis à Dieu, bien, moi j'ai ma foi est petite, mais je place ma petite foi dans un grand Dieu. Et fais grandir ma foi, Seigneur. Fais grandir ma foi pour que mes mains puissent être plus grandes ouvertes pour recevoir encore plus. On va terminer avec, je vous rappelle le résumé, en nous nourrissant de la parole de Dieu, on va grandir dans cette sécurité, dans l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Et puis cette sécurité va nous rendre capables de mieux aimer. On veut ça aussi, on veut refléter Dieu. On a vu dans le psaume que Dieu prend plaisir à nous voir heureux d'être pardonnés, d'être acceptés. Il prend plaisir aussi à nous voir sécurs dans son amour et confiants dans sa générosité. Puis il veut nous en donner encore plus. Même notre foi est un cadeau généreux de sa part. Devenons ces personnes qui aiment dans ce monde parce qu'on a été d'abord aimé par Dieu. Cultivons cet esprit de louange 24-7. Hein? Le psaume qui commence par « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Et le psaume se termine après tout ça. Là, le psalmiste répète, il parle à son âme, il dit « Mon âme, réveille-toi là, bénis l'Éternel. » Et je vous invite à passer votre semaine dans le remerciement, dans la bénédiction de ce Dieu envers lequel tu as tant de raisons d'être remerciant. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Benoît, viens, on va terminer avec notre prière finale va être le psaume qu'on va chanter ensemble. Vous êtes d'accord? Levons-nous. Autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa grandeur est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Faut descendre. Autant il éloigne de nous nos transgressions,
comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent.
Oui, Papa d'amour, ouvre nos cœurs pour qu'on accepte d'être aimé par toi. C'est difficile pour nous, et c'est très difficile même pour certains d'entre nous. Oh Père, tu n'as pas à te sentir coupable. Demande à Dieu de t'aider à ouvrir ton cœur à la grandeur de l'amour du Père. Au nom de Christ, amen.